Voici le texte que nous méditons ce matin. Il nous vient du témoin qu'est Jean, l'évangéliste Jean, au chapitre 20, à partir du verset 19. Le soir de ce même jour, qui était le premier de la semaine, alors que, par crainte des autorités juives, les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, Jésus vint. Il se tint au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous ». Et tout en parlant, il leur montra ses mains et son côté. En voyant le Seigneur, les disciples furent tout à la joie. Alors, à nouveau Jésus leur dit « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, à mon tour je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez le Saint-Esprit. À ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Cependant Thomas, l'un des douze, celui qu'on appelle Didyme, c'est-à-dire le jumeau, n'était pas là avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur répondit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'enfonce pas mon doigt à la place des clous, si je n'enfonce pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Or, 8 jours plus tard, les disciples étaient à nouveau réunis dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint, toute porte verrouillée. Il se tint au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous. » Ensuite, il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et enfonce-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule et deviens un homme de foi. » Et Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. » Alors de ce texte bien connu, il ne reste souvent à l'oreille que le nom de Thomas. Spontanément, c'est un disciple de Jésus que peuvent citer les personnes qui ont encore des restes de culture biblique, hein, tout en étant très éloignées de cet univers. Il est donc facilement associé à la difficulté d'avaler ce phénomène qui s'entête contre toute rationalité, c'est-à-dire la résurrection. Pour certains, il est devenu le porte-voix du scepticisme, mais d'un scepticisme de bonne santé mentale, hein. C'est-à-dire qu'on doit avoir à l'égard de toute déclaration de foi quand même des réserves et puis des doutes. Alors Thomas est victime de son succès, je dirais, parce qu'il occulte en fait le texte et je dirais surtout qu'on ne lui rend pas justice, on ne le voit plus. On ne voit que le label qu'il représente, le label d'une foi méfiante, ou encore la caution de ceux qui trient les récits des évangiles pour les expurger de toutes ces contes de bonnes femmes, hein, au nom de la rationalité et de l'intelligence. Alors n'allez pas croire que ça date du XVIIIe siècle, hein, ou des riches heures du scientisme des positivistes, ce succès-là de Thomas. Thomas a été la figure de courant gnostique pour qui seule la connaissance était la voie d'accès au mystère divin. Il y a même eu un évangile selon Thomas. D'ailleurs, fort intéressant. Ce que je veux dire par là, c'est que la figure de Thomas est devenue celle de la foi qui a ses faiblesses, mais qui s'y tient et qui même s'accroche à ses faiblesses, qui ne veut pas bouger de là. Alors c'est un dommage que l'on fait au texte. Parce que ce texte montrait certes l'importance des résistances de Thomas, mais vous voyez à la fin du texte qu'il en fait la figure d'un homme saisi par une foi gaillarde. Alors nous, mon Seigneur et mon Dieu, c'est devenu banal. Non, mais à l'époque, c'est une provocation. Sa confession n'est pas bavarde, c'est vrai, elle n'a rien de jargonnant, c'est très simple, mais elle a une force, d'uppercut, c'est un coup qu'on peut recevoir. Parce que le quatrième évangile a été rédigé à la fin du 1er siècle, à l'époque où régnait l'empereur Dioclétien, qui exigeait d'être salué comme notre Seigneur et notre Dieu. Donc Thomas, simplement, détourne ce salut obligé et il le donne à son Seigneur, à Jésus-Christ. Alors ne nous arrêtons pas trop aux images commodes de Thomas, celles qui justifient vite fait une foi paresseuse pour que notre vie ne traîne pas d'évidence en évidence et puis moi je dirais surtout d'évidence en résignation parce que finalement la résurrection dans sa difficulté a quelque chose qui palpite, quelque chose de puissant dont il ne faut pas se priver. Alors je vous propose de faire le chemin de Thomas avec le récit de Jean et pour voir à quel point Thomas n'est pas ce sceptique endurci que l'on croit, mais qu'il a fait un chemin au cours de ce récit. Alors je vais suivre le texte, hein, j'espère ne pas faire de paraphrase, mais enfin bon, ça arrive à tout le monde. Ce texte est tellement fort. Alors c'est donc au soir d'une riche journée, en rebondissement, le corps du crucifié a disparu au matin, et près du tombeau vide, eh bien, Jésus ressuscité se manifeste à une femme qui le voit, effectivement, mais elle le voit comme son Seigneur, après l'avoir pris pour un jardinier. Alors les disciples, eux, sont restés claquemurés dans la crainte d'une hostilité des Juifs, hostilité supposée d'ailleurs, et sans doute que la rumeur de la résurrection de Jésus leur est parvenue, mais elle n'a pas soulevé de joie ni de foi chez eux. Ils se protègent et ils ont peur de sortir. Alors on peut aisément les comprendre. Quelle débâcle quand même, hein ? Quelle triste fin ! Celui qui les avait sortis de leur vie ordinaire, de pêcheurs, de charpentiers, eh bien, il les a déroutés par sa mort. Et la défaite de Jésus, c'est aussi la leur. Alors il faut aussi voir dans cette peur exagérée des autorités juives une allusion à l'exclusion de la communauté des Johanniques, c'est-à-dire de ceux qui étaient autour du rédacteur de l'évangile de Jean. Ils ont été exclus de la synagogue à la fin du 1er siècle, au moment de la rédaction de ce texte. Mais aussi, on peut comprendre ce besoin de se protéger de l'extérieur, parce que ces disciples ont perdu tous leurs repères, tout est brouillé. Leur maître n'est plus là pour les orienter. Et puis quand même, il ne faut pas oublier que c'était avant-hier la foule qui hurlait. Pilate qui abandonnait Jésus à son sort. Et puis le supplice, le tombeau, l'humiliation, c'était quand même avant-hier. On peut comprendre qu'ils aient besoin de se retrouver entre eux. Mais soudain, dit le texte, sans avertissement, Jésus est là. Il se tient là, et d'après le verbe grec, il se tient dans la posture d'un relevé, lui qu'ils avaient laissé gisant dans le tombeau. Là, il est debout, il se tient comme un ressuscité, puisque c'est le mot que l'on utilise pour dire ressuscité. Il se tient au milieu d'une situation qui est verrouillée par la peur, et il nous montre qu'au fond, rien ne lui est inaccessible. Il peut nous rejoindre dans tous nos enfermements, quels qu'ils soient. Et il se tient là, debout, ressuscité, souverainement. Il peut se tenir même au cœur de nous-mêmes, lorsque l'on est crispé et replié par l'angoisse. Sa présence inexplicable, pourtant, n'a rien de magique. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle opère, elle fait ce qu'elle dit. Alors la paix, qu'il répète trois fois, ça pourrait être une formule convenue, le shalom que l'on dit quand on rencontre quelqu'un lorsque l'on est juif, quand on le rencontre et que c'est une formule de politesse. Non, là, il s'agit vraiment d'une paix, on le voit tout de suite. Ce n'est pas une formule, c'est une réalité qui dénoue les tensions. C'est un don efficace qui restaure l'harmonie des relations interpersonnelles, mais aussi l'harmonie des relations entre Dieu et les hommes. Et c'est tout de suite une réalité qui abolit le besoin maladif de sécurité, parce que cette paix, elle met les bénéficiaires en confiance. Alors ce n'est rien de magique, Jésus n'est pas un passe-muraille qui nous montre ses prodiges. Il arrive là, dans son humanité blessée, dans sa chair malmenée, de crucifié. Car déjà, première chose, c'est difficile pour nous de croire en la résurrection, mais une chose à savoir, c'est que la résurrection n'efface pas les marques du rejet. La résurrection n'est pas là pour dominer l'histoire, pour l'enjoliver ou pour la nier par magie. La résurrection n'est pas non plus un remède contre l'angoisse de la perte, contre l'angoisse de la mort. Non, on peut croire à la résurrection et avoir peur de la mort. On peut même dire que la résurrection, elle part même de là, elle part de cette hantise de la mort et de la perte. Et c'est même ce qui fait la gloire du ressuscité. C'est pourquoi Jésus, tout de suite, il montre ses plaies. Et les disciples, c'est vrai, ils le reconnaissent, c'est bien lui qui a été crucifié, mais déjà les disciples ont avancé. Ils reconnaissent les promesses d'Ésaïe. Ces promesses sont là devant eux, accomplies. Je les rappelle, ces promesses, dans le chapitre 53 d'Ésaïe, le châtiment, gage de paix pour nous. Ce châtiment était sur lui. Et dans ses plaies se trouvait notre guérison. Eh bien voilà, la joie qui sourd du cœur des disciples, c'est celle-là, c'est celle de reconnaître ce qu'ils attendaient au fond d'eux et dont ils n'avaient pas toujours conscience. C'est la joie des retrouvailles, certes, mais c'est une joie portée par une joie beaucoup plus durable qu'elle. Elle ne dépend pas des circonstances. C'est la joie qui vient de la présence de Dieu par son esprit. Alors vous voyez qu'il ne tarde pas, il souffle sur eux, le Saint-Esprit. Et en insufflant cet esprit, Jésus se montre comme le Père dans la Genèse. Il donne vie à une nouvelle création, à une humanité renouvelée, qui sont en premier les disciples. Alors désormais, il les investit d'un pouvoir. Alors le pouvoir, tout le monde est fasciné par le pouvoir. Et plus le pouvoir est subtil, et plus il nous fascine. Et bien là, c'est un pouvoir très subtil qui leur est donné, mais peut-être embarrassant. Alors, ce pouvoir, en fait, on en prend conscience en passant par le grec, malheureusement. Mais Jean utilise une petite subtilité grammaticale en jouant avec les temps pour pouvoir faire comprendre l'amplitude de ce pardon qu'on a du mal à percevoir dans la langue française. Alors, si j'ai fait une périphrase pour comprendre cette subtilité que l'on perçoit dans le texte grec, on pourrait traduire ainsi. Si pour une fois, vous relâchez les péchés des autres, ils leur sont relâchés. Mais si vous les retenez comme vous le faites d'ordinaire, les péchés leur seront et leur resteront retenus. Donc on voit bien qu'il y a là quelque chose de nouveau, et c'est ça la résurrection. La résurrection, ce ne sont pas ces effets spéciaux, ce n'est pas un retour à un stade antécédent. La résurrection, c'est cette capacité de renouveler des relations, cette capacité de ressusciter des relations. J'ai rencontré une paroissienne qui était issue d'une famille libérale et qui, le mot résurrection pour elle, déjà, ça lui donnait du prurite. Elle avait des démangeaisons, elle ne supportait pas ce nom. Et un jour, on a écrit dans le journal paroissial un texte qui était issu d'Évangile et Liberté, où l'auteur avait tout simplement mis un trait d'union, le ressuscité, celui qui est suscité à nouveau par les disciples, celui qui devient nouveau, celui qui devient une rencontre première. Et là, elle m'a dit, ben moi je crois finalement à la résurrection si c'est comme ça. Donc il s'agit bien de cette résurrection-là qui n'est pas quelque chose de magique et qui force et qui violente la raison. C'est cette capacité à renouer et à redonner vie à des liens qui avaient été endommagés par des offenses et aussi par de la rancune. Voilà donc cette réalité qui est saisie par la foi, et vous comprenez bien qu'elle transforme les existences de chacun. Alors déjà, la première chose, c'est que les disciples se sentent acceptés, on pourrait dire même pardonnés, comme ils sont, dans leur peur, parce que quand même ils ont peur, dans leur lâcheté. Et à peine acceptés, à peine pardonnés, qu'ils sont déjà investis d'une responsabilité de pardon. Ensuite, ils sont embarqués dans une aventure, celle de la création d'un monde nouveau, de nouvelles relations, parce qu'eux-mêmes pardonnent à leur tour. C'est une manière de, lorsque l'on retient les péchés des autres, lorsqu'on a du mal à pardonner, on maintient le passé, on maintient l'ordre ancien, on maintient aussi la causalité où s'enchaînent les offenses et les contre-offensives. Ne pas pardonner, c'est une manière de conserver en l'état un monde qui est marqué par le mal et le péché. C'est une façon de participer au régime général des relations humaines. Puisqu'on est jugé, alors on se mure dans l'auto-justification. Puisque les autres nous jugent et nous pardonnent rien, on est tout bien obligé de présenter une image trafiquée de soi pour être acceptable. Et on est bien obligé de se méfier d'autrui. Et on s'enferme dans son propre mensonge, mensonge auquel on finit par croire. Alors que le pardon, lui, voit avec courage l'offense, il voit le péché et il laisse l'autre aller son chemin, débarrassé du poids de sa faute. Le pardon peut changer de monde à nos yeux, en étant autre chose que notre capacité à blesser. Il peut changer celui qui nous a blessés et on le laisse aller sans le retenir par la peur du jugement et par la peur de Dieu. Voilà la mission qui nous est proposée par la résurrection. On vient d'être visité dans nos logiques de fermeture. On sort à peine de nos captivités que déjà on est envoyé vers les autres comme relais d'une puissance de pardon. À notre tour, nous sommes des libérateurs. En pardonnant depuis et avec ce pardon reçu, c'est comme si on ouvrait les tombeaux de la culpabilité et de la rancœur. Comme les disciples, on est associé à l'œuvre de réconciliation de chacun avec son Dieu. Alors vous voyez que la résurrection, ce n'est pas juste quelque chose, une visite du ressuscité qui viendrait pour nous rassurer, pour nous consoler, pour nous dorloter. Non, le ressuscité nous vient, nous apparaît à notre foi pour nous envoyer, pour dynamiser notre confiance en lui en donnant une direction, celle du pardon. Mais ce n'est pas terminé. Il manque quelqu'un. Il y a un absent. Un seul absent, et Jésus se déplace pour le rejoindre, comme le fait le berger pour une seule brebis manquante. Pas un n'est oublié. Et même si c'est quelqu'un qui n'est pas un béni, oui, puisque Thomas, il a déjà manifesté des signes de doute et de réserve avant la crucifixion. Alors Thomas va bénéficier d'une séance de rattrapage. D'ailleurs, on peut se demander si les 10 séquestrés du dimanche soir, comme les appelle un théologien, n'ont pas besoin eux aussi d'un rappel, le rappel à sortir de leur refuge, parce que vous remarquez qu'ils sont restés en chambre, ils ont encore verrouillé leur chambre. Thomas, chacun le sait, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à croire sur parole. Du témoignage des disciples, il ne veut rien entendre. Et il met déjà les disciples en échec dans leur mission. On le sait, l'énoncé de la foi n'a jamais suffi à retourner personne. Ce ne sont pas des paroles qui ont des vertus magiques, ça se saurait. Et d'une certaine manière, l'attitude de Thomas est exemplaire pour nous. C'est un modèle de foi, car c'est quelqu'un qui exige d'être concerné personnellement, qui attend une relation personnelle, car les formulations universelles, les résolutions générales ou les confessions impersonnelles ne le satisfont pas. Il veut être concerné dans tout son être. Il veut voir de ses mains, il veut toucher de ses yeux, il veut se rapprocher pour être en contact, en relation sensible, alors que le voir et l'entendre met le réel à distance. Eh bien, là aussi, Jésus l'accueille. C'est Jésus qui vient à lui. Thomas, qui ne veut rien entendre, qui ne veut pas entendre n'importe comment, eh bien, Thomas est entendu dans son désir par Jésus. dans ce désir beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. Il veut être pris au sérieux dans son désir propre. Lui qui a été tenu à l'écart à la première visite du ressuscité, il veut être entendu comme un cas à part. Il a besoin de vérifier par lui-même, et soit dit en passant, la communauté des disciples, tout aussi repliée sur son entre-soi, est capable d'accepter quelqu'un qui ne croit pas comme elle. Vous voyez que les premiers chrétiens sont aussi ceux qui acceptent, ceux qui doutent et qui n'acceptent pas des vérités massives sur la parole d'autrui. Alors Jésus reprend les demandes de Thomas pour les satisfaire. Mais le récit ne nous dit pas si Thomas a bien vérifié, palpé, saisi avec ses sens la présence du supplicié revenu à la vie. Et le silence du texte nous porte à penser qu'il n'avait déjà plus besoin de ses preuves, que cette exigence était déjà débordée par quelque chose de beaucoup plus ample, de beaucoup plus renversant. Deviens un homme de foi. C'est à ces paroles que Jésus réagit, non pas pour obéir mécaniquement, mais parce qu'il y est entendu comme une personne unique, traversée de doutes, certes, de faiblesses, mais aussi fait d'un désir de relation personnelle, du désir d'une révélation personnalisée. Plus que dans un face-à-face, dans un cœur à cœur où les mouvements invisibles de son être appelé à la vie sont vus par le ressuscité. D'ailleurs, vous avez remarqué que ce qui fait la joie dans la vie de foi, et je dirais dans la vie, dans la relation avec n'importe qui, c'est quand on se sent rejoint dans notre spécificité, quand on est remarqué, et parfois on peut avoir une vie intime avec quelqu'un et l'autre ne nous voit plus, ne nous remarque même plus, il termine nos phrases, il ne nous connaît plus dans notre nouveauté. Et bien là, Jésus le rejoint dans sa spécificité, il l'a compris dans son unicité, il a été remarqué par Dieu lui-même parce que sa vie lui importe à tel point que son regard sur lui le révèle à lui-même. C'est la même chose pour nous. C'est parce que parfois nous sentons à quel point Dieu est concerné par nous, à quel point le Christ nous regarde nous comme une personne unique, que nous sommes révélés à nous-mêmes. Et même si ça passe par l'étape douloureuse de la repentance. Alors voilà ce qui fait la force de la figure de Thomas. Thomas, ça veut dire jumeau, c'est lui notre jumeau. Nous avons cette façon de ne pas croire n'importe quoi et d'être de toute façon traversés par le doute. Mais nous avons aussi cette capacité, cette foi extrêmement forte et extrêmement exigeante d'être rejoint personnellement par le Christ, de bénéficier d'une révélation personnelle. Alors vous voyez, Thomas apparaît dans son visage subtil, dans toutes ses nuances, et dans la dynamique d'un échange qui est beaucoup plus dense que ne sauraient le dire les paroles. Et déjà, il n'est plus cette figure, ce masque qu'on a fait du dur à croire, du douteur professionnel ou du saint patron des discuteurs et des philosophes avertis. Non, non, sa confession de foi, de peu de mots, elle craque d'intensité sous l'étroite carapace de ce qui est formulé ici et de ce qui était au départ une formule destinée à un empereur narcissique. Tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu, toi tu m'as vu, tu m'as remarqué, tu m'as accepté, alors que moi, je ne pouvais déjà plus rien accepter. Oui, heureux es-tu Thomas, car tu n'as rien vu de ce que tu pensais voir, mais tu as cru. Heureux êtes-vous, vous qui n'avez rien vu et qui déjà, sentez le croire, vous gagner et vous saisir. Amen.